La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Ce matin, vous vous demandez si Donald Trump ne serait pas en train de savonner la planche internationale à son successeur Joe Biden.
Alors ce qui est sûr, c'est que coup sur coup, ces derniers jours, deux pays qui font figure de bête noire de la diplomatie américaine depuis des décennies sont redevenus des sujets de préoccupation pour Washington. Et on va commencer, si vous le voulez bien, par l'Iran. L'Iran, où vendredi dernier, le père du programme nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh, a été assassiné dans la banlieue de Téhéran, dans une attaque apparemment millimétrée. Les autorités iraniennes, citées ce matin par la BBC, affirment que le scientifique a été tué par une mitrailleuse contrôlée à distance par commande satellitaire et donc probablement depuis l'étranger. Une manière d'accuser Israël et ses services secrets d'être derrière ce meurtre télécommandé qui, il faut bien le reconnaître avec le quotidien de gauche israélien Haaretz, semble en effet porter la signature du Mossad. À lire ce qu'en écrit Gideon Levy, avec l'irrigation au compte-gouttes et les tomates cerises, les assassinats ciblés, ce sont l'une des grandes fiertés de l'État israélien dirigé par Benjamin Netanyahou. Pas moins de 5 physiciens rattachés au programme nucléaire iranien ont été assassinés ces 10 dernières années. C'est ce que nous confirme Sheren Khalel pour le Middle East Eye. Le tribut est lourd et le site d'info constate que ces assassinats ciblés ont toujours lieu quand les négociations sont au plus mal entre l'Occident et Téhéran.
Joe Biden, lui, a affirmé qu'il renouerait le dialogue avec l'Iran qui avait été rompu avec fracas par Donald Trump il y a 2 ans.
Oui, faut-il dès lors croire que l'assassinat de Mohsen Fakhrizadeh serait un cadeau empoisonné, en quelque sorte adressé indirectement par le président américain sortant à son successeur pour pousser l'Iran à rentrer dans la spirale des représailles contre Israël et ses grands alliés américains et saoudiens. Bref, donner en héritage un Moyen-Orient ingérable à Joe Biden, eh bien, la presse internationale n'est vraiment pas loin de le penser, à commencer par la revue américaine Foreign Policy, selon qui la mort du scientifique sert clairement les intérêts de ceux qui cherchent à maintenir les États-Unis et l'Iran loin de la table des négociations en donnant des munitions supplémentaires au passage aux partisans de la ligne dure à Téhéran, les gardiens de la révolution islamique auxquels appartenait Mohsen Fakhrizadeh. Mais pour le moment, le président modéré Hassan Rouhani semble tenir face à la pression des représailles. Pour le quotidien turc Sabah, à Téhéran, on sait bien que l'ouverture promise par Joe Biden est une dernière chance de revenir en grâce sur la scène internationale. L'Iran fait donc le dos rond pour le moment, note également The Guardian, qui n'exclut pas des représailles indirectes contre Israël dans les prochains jours, mais elle aussi serait ciblée, limitée, pour permettre aux conservateurs iraniens de sauver la face, sans empêcher pour autant la reprise tant attendue d'un dialogue international.
Et puis, comme promis, nous évoquons Cuba, où la presse communiste voit la main de Washington derrière une mobilisation d'artistes.
Oui, ça dure depuis un bon mois à La Havane, je n'avais pas encore trouvé le temps de vous en parler. Petit rappel donc des épisodes précédents avec le Diario de Cuba. Début novembre, le jeune rappeur Denis Solis González, engagé contre le régime castriste, a été condamné à 8 mois de prison et immédiatement incarcéré pour manque de respect aux autorités. Une condamnation arbitraire et éminemment politique selon les camarades artistes du mouvement d'opposition San Isidro qui ont lancé en signe de protestation et pour revendiquer le droit tout simplement de pouvoir créer et vivre librement une série de manifestations pacifiques et une grève de la faim. Alors le soutien dans les milieux artistiques et dans la jeunesse cubaine a commencé à prendre. Les rares médias indépendants de Cuba comme la revue en ligne El Estornudo ont donné de l'écho également à la mobilisation. La presse étrangère et notamment américaine comme le Wall Street Journal ou le quotidien floridien de la diaspora, le Miami Herald, s'y sont intéressés à leur tour et comme il fallait s'y attendre, eh bien, le régime castriste n'a plus pu supporter ce vent de contestation et vendredi, des policiers ont violemment expulsé les grévistes de la faim de leur quartier général à La Havane.
Et depuis, on assiste à une contre-attaque en règle des autorités et des journaux communistes.
Oui, un déluge d'articles et de reportages pour expliquer au peuple que ce mouvement San Isidro n'est qu'une farce, selon le terme consacré par la Granma, un reality show impérialiste piloté par les États-Unis, une subversion made in America dans le but évident d'affaiblir la fière révolution cubaine, d'après le journal en ligne La Demagogia. Sur le portail Cuba Debate, on lit que les terroristes du mouvement San Isidro ont été pervertis à coups de dollars par Washington pour fomenter à Cuba une révolution colorée à l'image de celle observée ces dernières décennies dans l'ancien bloc soviétique ou dans le monde arabe. Et derrière cette grande machination, il n'y aurait personne d'autre que Donald Trump, trop déçu, nous dit-on, de ne pas avoir réussi à mettre au pas le régime cubain ces quatre dernières années. Alors avant de quitter à contre-cœur la Maison-Blanche, le président battu se ferait un devoir de semer le chaos à la Havane pour empêcher Joe Biden de poursuivre la politique initiée par Barack Obama de coexistence pacifique avec Cuba. Voilà ce que les deux histoires que je viens de vous raconter nous disent. En tout cas, c'est que de l'Iran à Cuba, les attentes diplomatiques sont énormes pour le prochain président américain et que d'ici au 20 janvier, à la passation de pouvoir entre Trump et Biden, il peut se passer encore beaucoup de choses qui conditionneront les relations internationales pour les quatre années à venir.
Merci Camille Magnard. Il est 7h41 sur France Culture.